France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Récemment, nous avons découvert le plus ancien blazar jamais observé, situé dans une galaxie qui s'est formée 800 millions d'années après le Big Bang. Peuvent-ils nous éclairer sur l'enfance de l'univers ? Ce sont les objets les plus énergétiques du cosmos. Ils sont au centre de très grosses galaxies, avec des trous noirs gargantuesques de plusieurs milliards de masses solaires. Et ils projettent des jets chargés de particules directement dans notre direction, vers la Terre. On en connaît peu, environ 3000, mais ces noyaux actifs de galaxies sont une aubaine pour les astronomes. Ils servent de phares cosmiques qui éclairent l'univers et offrent la possibilité de sonder le vide. Mais comment ont-ils pu se former de façon si précoce dans l'histoire du cosmos ? Ça, c'est le blizzard. Blazar, des galaxies à 1G de particules. Hélène Sol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, astrophysicienne au laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes de l'Observatoire de Paris-Meudon, rattachée à l'université PSL et à Sorbonne Université. Et nous sommes en ligne avec Jonathan Biteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence de l'université Paris-Saclay, chercheur en physique des astroparticules au sein du laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie, membre junior de l'Institut universitaire de France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast. Pour ne rater aucun épisode, il suffit de vous abonner sur notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky tous les jours. Nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, parmi les noyaux actifs de galaxies, quelle est la spécificité des blazars ? Quelle est la nature de leurs jets ? Et comment peuvent-ils être utilisés en astronomie ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour. En 1962, les astronomes ont mis la main sur un drôle d'objet cosmique.
Le premier objet dont on ait vraiment découvert la nature, c'est le fameux source 3C273. Ce numéro de 3C, c'est le numéro d'un catalogue radioastronomique. Alors, cette source a été identifiée en 1963 à quelque chose qui ressemblait à une étoile et dont on a pris le spectre. Le spectre optique, c'est-à-dire qu'on a projeté l'image de cette étoile sur la fente d'un spectrographe et on a regardé quelle était la distribution spectrale de la lumière. Et c'est là qu'on a entrevu que cet objet n'était pas une étoile en réalité, car il a un spectre tout à fait extraordinaire.
Et alors, qu'est-ce qui caractérise les quasars, à part le fait qu'on ne sait pas très bien comment les identifier, et en quoi justifie-t-il l'intérêt passionné qu'ils soulèvent ?
Eh bien, il suffira de vous dire la caractéristique essentielle du spectre, c'est que ce spectre présente les raies spectrales caractéristiques des éléments classiques, par exemple l'hydrogène ou l'hélium, ou l'argon, le néon, ou tout ce que vous voudrez, mais que ces raies sont en général décalées vers le rouge d'une quantité considérable par rapport à leur longueur d'onde au laboratoire. Et c'est, je crois, la caractéristique essentielle des quasars, une caractéristique qui ne se présente jamais avec des étoiles, et qui fait qu'on a tout de suite pensé qu'il s'agissait d'autre chose.
Voilà un extrait du magazine des sciences diffusé sur France Culture en 1968 et la voix de James Lequeux, astronome adjoint à l'Observatoire de Meudon. Hélène Sol, voilà ce premier quasar, le 3C273, quasar parce que quasi-stellar object, ça a bouleversé les passions comme on l'entend dans cette archive.
Oui, tout à fait, parce que on connaissait depuis pas mal de temps des signatures un petit peu bizarres de sources qui paraissaient exotiques. Donc c'était même depuis le début du XXe siècle, il y avait eu quelques indices d'originalité, un G qui avait été vu autour de Messier, de la galaxie Messier 87, puis des noyaux de galaxies qui on savait pas trop ce que c'était, mais qui montraient des points brillants d'activité. Dans le CFERT qui avait fait un catalogue à ce sujet, mais on n'avait pas du tout l'idée de qu'est-ce que ça pouvait être. On ne situait même pas les distances à laquelle ça pouvait se trouver. Et donc c'est dans les années 50, avec les développements de la radioastronomie, on s'est mis à avoir un accès un peu plus complexe de ces sources. Et on s'est rendu compte qu'il y avait justement des structures radio doubles qui semblaient être autour d'un point brillant, des choses comme ça, mais on ne savait toujours pas ce que c'était. Ça ressemblait à des étoiles, les points brillants, tellement c'était compact. Et les sources radio, par contre, étaient plus étendues. Et donc, il y a eu une percée phénoménale quand Martin Schmidt, en fait, s'est rendu compte qu'on pouvait comprendre ces raies spectrales qui étaient obtenues grâce à des méthodes de spectroscopie, mais qui étaient extrêmement décalées par rapport à ce qu'on observait sur Terre, aux mêmes raies spectrales, mais observées dans en laboratoire, disons. Et on s'est rendu compte que ça pouvait venir d'objets extrêmement lointains et que toutes ces raies spectrales étaient décalées vers le rouge du fait de l'expansion cosmologique. Et c'est à ce moment-là que vraiment la notion de quasar est née, quand on s'est rendu compte que ce n'étaient pas des sources proches, c'était des sources extrêmement brillantes et extrêmement lointaines, dont on observait ces raies très décalées.
Voilà, le quasar qui est évoqué dans cette archive. Quasar, c'est ça qui donne aussi le nom de blazar, hein, puisque c'est la contraction de blazing quasar, un quasar flamboyant, Jonathan Bitteau.
Ben oui, flamboyant et distant, comme Hélène nous le disait tout à l'heure et comme on l'a entendu dans cet enregistrement. Ce qui caractérisait à l'époque ces objets, c'était leur grande distance, le fait qu'ils soient très distants et donc effectivement très brillants. On ne pouvait plus les confondre avec des étoiles proches situées dans notre galaxie. Pourtant, ils apparaissaient assez clairement dans le ciel. Donc, ça voulait dire que ces objets devaient être flamboyants et pas simplement extrêmement lumineux, mais aussi flamboyants parce que leur luminosité varie en fonction du temps. Donc, ce sont des objets qui apparaissent, voient leur flux réduit. Une analogie que j'utilise souvent et qui est en fait une analogie qui marche mathématiquement assez bien, c'est que le flux qu'on observe de ces objets varie en fonction du temps, un peu comme le cours de la bourse le fait en fonction du temps, avec des hauts, des bas, des pics soudains, des creux. Et c'est ce qui rend ces objets extrêmement intéressants.
Alors pour bien comprendre ce qu'est un blazar, il faut se pencher sur une classe plus grande d'objets cosmiques, les noyaux actifs de galaxies. Jonathan Bitteau, que sont ces objets?
Les noyaux actifs de galaxies, c'est une classe d'objets qui a émergé, disons, dans les années 90, pour ce qui est du modèle d'unification, et qui regroupe ensemble toutes ces sous-classes qu'on a commencé à évoquer, les quasars, les blazars, les galaxies de Seyfert qu'Hélène évoquait. Et on a regroupé sous cette appellation « noyaux actifs de galaxies » ces objets qui, en leur centre, la galaxie qui les abrite, eh bien, en son centre, elle est extrêmement brillante, parfois aussi, si ce n'est plus brillante que toutes les étoiles de la galaxie. Et les ingrédients composant ce centre extrêmement brillant, eh bien, ce sont essentiellement un trou noir supermassif, donc le milliard de masse solaire, comme vous l'évoquiez dans votre introduction, un disque d'accrétion, donc le trou noir tourne probablement sur lui-même et il mange suivant son équateur, et puis, dans à peu près 10% des cas aujourd'hui, mais c'est un chiffre qui est discuté pour l'univers lointain, la présence de jets de part et d'autre du disque. Et donc, parmi ces noyaux actifs de galaxies à jets, on distingue ceux pour lesquels le jet, on le voit de côté. C'est le cas de la galaxie M87, par exemple, qui est très proche de nous, et donc de son noyau actif de galaxies. Des blazars, pour lesquels le jet est orienté quasiment vers la Terre, ce qui fait qu'on est capable de les voir très très loin.
Oui, c'est-à-dire que parmi justement ces catégories de noyaux actifs, ces différentes catégories, classées comme vous dites, hein, selon les galaxies de Seyfert, les radiogalaxies, les blazars et les quasars, la distinction entre ces appellations, ça dépend tout simplement de la phase que l'on observe. Hélène Sol, vous avez aussi, vous avez pensé à un tableau pour se représenter ce que sont les blazars.
Oui, effectivement, il y a un tableau qui me les évoque irrésistiblement, c'est l'enfant au toton de Chardin, qu'on peut voir au Louvre, je crois, et qui vraiment m'évoque en fait même le regard curieux et intéressé de l'enfant, m'évoque le regard de l'astronome qui regarde son modèle de blazar sur son écran d'ordinateur, disons. Bon, alors ceci dit, il y a un énorme problème au niveau de la dimension, parce que si on regarde les tailles d'un humain comparé aux tailles des grands jets de blazar, c'est à peu près dans la même proportion que la taille d'un globule rouge par rapport à la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche. Donc vous voyez, il y a un facteur en taille absolument phénoménal, mais vraiment l'aspect de toupie et de gyroscope évoque vraiment un blazar, parce que le blazar tourne sur lui-même en conservant très longtemps son axe de rotation. C'est ce qui permet d'avoir ces jets si grands et si stables qui sont toujours éjectés dans la même direction et donc vers nous. Donc c'est un peu aussi ce qui fait qu'on peut spécialement observer les blazars, parce que c'est un petit peu comme si quelqu'un nous éblouissait avec une lampe de poche en bougeant un petit peu, un tout minuscule, un tout petit peu la direction de la lampe. Donc on voit des très grandes variations. Et on voit en plus, on a en plus une amplification du flux qui vient vers nous, parce que les particules émises dans ces jets sont envoyées à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, donc ce sont des jets relativistes. Et ces effets font que ça augmente le flux apparent observé et ça rend encore plus énergétique la lumière observée.
Oui, cette luminosité qui varie en fonction du temps, un peu comme le cours de la bourse. Hélène Sol, à quel point justement cette luminosité varie-t-elle ?
Alors, on peut voir des variations vraiment à toutes les échelles de temps. On voit des variations sur des années et on descend jusqu'à l'ordre de la minute actuellement. Et il faut dire que ces variations, on les observe aussi sur toute l'étendue du spectre électromagnétique, depuis la radio jusqu'au gamma très énergétique, en passant par le millimétrique, l'infrarouge, l'optique, l'UV et les rayons X. Et c'est dans les énergies les plus extrêmes qu'on voit les variabilités les plus rapides.
Donc on voit des variabilités très rapides, Jonathan Bitteau. Pourquoi justement de telles variations de luminosité aussi rapides ? Ça, c'est un des mystères des blazars.
Alors, c'est effectivement un mystère. Alors, on a des éléments de réponse à ça. Hélène évoquait un petit peu plus tôt le mouvement relativiste de ces particules dans les jets, les mouvements d'ensemble relativistes. C'est lié à un autre mystère qui a été en fait levé dans les années 70. Quand on observe, non pas des blazars, mais leur pendant légèrement désaligné, par exemple la galaxie M87 que j'évoquais un peu plus tôt, c'est un nom avec un numéro, mais en fait vous connaissez tous et toutes cet objet parce que c'est le premier dont on est imagé le flot d'accrétion. C'est cette image de donut rouge autour d'un centre sombre, donc la première image de l'ombre d'un trou noir par l'Event Horizon Telescope, c'est cet objet M87. Et déjà dans cet objet, au siècle précédent, on observait des zones lumineuses qui bougeaient d'année en année, avec une vitesse apparente projetée sur le ciel qui semblait être plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc Einstein, 1905, avec sa relativité restreinte, n'était pas très content, même s'il était peut-être plus de ce monde à ce moment-là. Mais en tout cas, sa relativité restreinte ne l'était pas forcément. Et en fait, ça s'explique simplement de façon géométrique, avec des effets de projection. Ce qu'il y a derrière, c'est que la zone qui émet est en mouvement extrêmement rapide vers nous. Comment est-ce qu'on... Donc ça joue pour la vitesse à laquelle on est capable de voir le flux varier, ce mouvement relativiste de la zone d'émission. Et ensuite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les variations de flux qu'on voit, elles sont liées à des effets géométriques ? Hélène évoquait un peu plus tôt cette lampe torche qu'on pourrait bouger légèrement. Dans quelle mesure est-ce que ces légers mouvements du jet peuvent expliquer une partie de la variabilité? Dans quelle mesure c'est lié à des phénomènes de turbulence au sein du jet lui-même? Donc le fait qu'on n'ait pas un milieu joli, continu, mais plus un milieu comme la Seine qui, n'importe quelle rivière d'ailleurs, je pense à la Seine, mais la Seine qui traverse, qui passe sous des ponts et au voisinage des piliers, des pylônes de ce pont, on voit des mouvements de turbulence. Est-ce que c'est lié à la matière qui est en train d'être mangée par le trou noir, ce disque d'accrétion, et à une modulation des particules injectées dans le jet par ce disque d'accrétion, et bien question encore ouverte.
En tout cas, on a évoqué tout à l'heure cette découverte majeure en 1962 de 3C273, un quasar. En 1978, au niveau des classifications, on y voit plus clair. Et puis dans les années 90, Hélène Sol, on découvre que les blazars sont aussi une source de rayons gamma. Ça, c'est quelque chose de très important pour la suite de l'émission.
Oui, effectivement, ça va être, quand les expériences d'observation en rayons gamma de très haute énergie, donc ce sont des expériences qui des télescopes qui observent depuis le sol, ont réussi à fonctionner. En fait, ça a été après, il y a eu une première source qui était une source galactique qui a été détectée, la nébuleuse du Crabe, donc qui elle est liée à un autre phénomène astrophysique autour des pulsars. Mais les sources après qui sont apparues les plus nombreuses comme famille, disons, qu'on pouvait observer aux très hautes énergies, ça a été des blazars avec en particulier les deux premières sources Mark Arion 421 et Mark Arion 501, du nom de l'astronome du XXe siècle qui avait fait un catalogue de galaxies avec un centre très bleuté. C'était une des premières signatures aussi d'activité de noyaux de galaxies.
Voilà, et en 2008, on a découvert que les blazars sont les sources les plus importantes de rayons gamma dans l'univers. Alors, quelle est la nature des jets caractéristiques des blazars? Quelles particules émettent-ils? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Jonathan Bitot et Hélène Sol, nous parlons de blazars. On vient de voir que le blazar appartient à la catégorie des noyaux actifs de galaxies, des objets célestes qui possèdent un trou noir massif central avec un disque de matière en accrétion qui est en rotation spirale, ce qui produit un magnétisme intense. Les blazars produisent des jets de matière. Jonathan Bitot, ces jets qui sont parfois éjectés sur des millions d'années-lumière, que sont-ils? Quelles sont les particules qu'ils émettent? Quelle est la nature de ces jets?
Alors, pour répondre à cette question, donc il y a deux questions sous-jacentes. Il y a la question de la formation de ces jets. D'où est-ce que ces jets viennent? Où est-ce qu'ils trouvent leur point source? Et puis ensuite, de quoi sont-ils faits? Les deux mécanismes qu'on a pour créer des jets, ce sont des mécanismes qui sont liés au champ magnétique. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que cette matière qui est en train d'être mangée par le trou noir, accrétée, qui donc tourne autour du trou noir, eh bien, elle transporte avec elle des lignes de champ magnétique. Et ces lignes de champ, eh bien, elles tournent au fur et à mesure. Et puis, elles peuvent créer des structures cylindriques de part et d'autre, des vents, qui peuvent être à l'origine de ces jets. Ça, c'est un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de Blanc-Fortaine. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme où les lignes de champ ne sont plus ancrées dans la matière qui est en train d'être mangée, mais dans l'environnement du trou noir lui-même. Et donc ça, c'est un mécanisme qui porte le nom de Blanc-Fort-Znaïek. Dans les deux cas, à la base du jet, on a beaucoup d'énergie électromagnétique portée par ces lignes de champ magnétique qui va être transférée au fur et à mesure du jet en une énergie de mouvement pour les particules accélérées. Et alors ces particules accélérées, ça peut être soit les particules du milieu, notre univers est composé essentiellement de protons, un petit peu d'hélium, ou alors des particules et puis aussi d'électrons, donc les protons et les électrons formant par exemple les atomes d'hydrogène. Ces électrons, voire aussi leurs antiparticules, les positrons, peuvent appartenir au milieu préexistant ou bien même être créés à la base du jet du fait de la forte densité d'énergie. Ce qu'on observe, nous, depuis la Terre, c'est la signature de ces particules qui donc gagnent de l'énergie qui a été transférée depuis ces champs électromagnétiques et qui vont rayonner dans le jet lui-même, de sorte à ce qu'on observe, nous, des photons sur Terre. Photons qui vont des ondes radio jusqu'au rayon gamma octave. Alors, les particules qu'on voit rayonner, on sait qu'il y a des électrons, il y a des positrons. Ça, c'est sûr. La grande question qu'on se pose avec les rayons gamma et qu'on commence à adresser, c'est quelle proportion d'électrons et de positrons par rapport aux protons qui, eux aussi, vont émettre des radiations. Cette proportion exacte, elle reste à déterminer, à être mesurée de façon précise aujourd'hui, mais on espère qu'avec des observatoires de future génération, on va pouvoir avancer sur ce chemin-là.
Et on parlera évidemment dans quelques instants de ces futurs observatoires. Hélène Sol, les blazars, comme tous les noyaux galactiques actifs, émettent dans tous les spectres électromagnétiques, mais ils ont une particularité, hein, celle d'émettre jusqu'à des niveaux énergétiques extrêmes. De quel ordre, ça aussi, pour qu'on se représente ce phénomène extrême?
Comme Jonathan l'a exprimé tout à l'heure, en fait, donc le blazar ou le noyau actif de galaxie lui-même, amplifié en plus par son jet dans notre direction, émet beaucoup plus que l'ensemble des étoiles de toute la galaxie haute dans laquelle il se trouve. Donc, dans une galaxie haute, il y a typiquement 10 puissance 11 étoiles. Donc, en fait, ça fait des milliers de milliards d'étoiles. Donc, c'est une énergie absolument considérable qui peut être émise et qui, de plus, dans le cas des blazars, est amplifiée par des effets relativistes. Donc, on a des flux apparents absolument phénoménaux pour des objets qui sont extrêmement lointain.
Des objets extrêmement lointains, mais aussi des objets quand même tout petits. Hein. On a un corps aussi petit qui peut contenir autant d'énergie. Jonathan Bito a commencé à nous en parler, mais comment ça s'explique aussi, une telle puissance?
Oui, donc ça, en fait, c'est ce qui avait mené au paradigme des AGN, où vraiment on a pensé pendant tout le XXe siècle que, à partir du moment où on a parlé des AGN, ce qui décrivait le mieux un AGN, l'engin central, c'était un trou noir.
Parce qu'on se rend AGN, compte,
c'est
bien
le noyau actif de galaxies.
L'abréviation.
Pardon. Oui, c'est Active Galactic Nuclei en anglais, excusez-moi.
Non,
c'est une déformation. Donc, on se rendait compte, en faisant des études du mouvement des étoiles et du gaz autour de ces centres actifs, qu'en fait, on arrivait à contraindre la masse qui était contenue à l'intérieur de l'orbite de ces étoiles et de ce gaz, et on trouvait des masses vraiment phénoménales. Et en pratique, le seul concept théorique et le seul objet astrophysique qui était relativement élaboré, qui pouvait rendre compte de cette quantité de masse dans un volume aussi faible, correspondait vraiment à l'idée, au concept de trou noir, qui existait du fait que c'était des solutions des équations d'Einstein, en fait. Mais on n'avait pas de preuves directes de leur existence. Donc pendant de très nombreuses décennies, les chercheurs travaillaient sur l'hypothèse de ce paradigme de trou noir central, très massif, au centre des AGN, et expliquaient avec ça la formation des disques d'accrétion autour, qui sont très brillants, des jets dont vient de parler Jonathan. Mais on avançait un peu sur du sable, dans la mesure où on n'avait tout de même pas de preuves directes, solide et définitive de l'existence de ces fameux trous noirs. On aurait pu imaginer peut-être que la nature avait fait des objets encore plus exotiques. Bon, c'était un peu encore incertain. Et vraiment, dans les dernières années, on a eu la confirmation fantastique de l'existence des trous noirs. D'abord avec la première observation d'ondes gravitationnelles qui ont été parfaitement bien modélisées par le fait qu'on observait la fusion de deux trous noirs. Donc ça, c'était un peu dans un contexte très différent des noyaux actifs de galaxies, mais au niveau de la preuve de l'existence des trous noirs, c'était très important, vraiment. Ça a été un grand cap.
En 2015, jusqu'à cette fameuse photo de donut.
Jusqu'à cette photo qui a été, elle, alors une preuve directe du fait que ces fameux trous noirs dont on venait de savoir qu'ils existaient vraiment, eh bien, ils étaient au centre des galaxies actives.
Voilà. Par rapport à ces jets à vitesse relativiste, Jonathan Bito, comment expliquer justement l'accélération des particules? Ça, dès le milieu des années 50 et le début des années 60, Enrico Fermi propose deux mécanismes pour expliquer ce phénomène.
Oui, donc Enrico Fermi nous propose effectivement deux mécanismes qui sont applicables au noyau actif de galaxies AGN, mais aussi à tout un tas de sources astrophysiques qui émettent un rayon gamma. Alors, des sources astrophysiques qui sont pour le coup situées dans notre galaxie, qui sont beaucoup plus proches. Ces deux mécanismes sont les suivants. Alors pour l'expliquer en deux mots, je vais réutiliser l'analogie que j'utilise parfois avec mes étudiants de master. Et pour ça, je vais vous emmener dans Star Wars épisode 4, donc le premier Star Wars, au moment où on se trouve dans le compacteur d'ordures. J'espère que vous avez ce moment en tête pour les moins jeunes et peut-être pour les plus jeunes aussi. Donc les murs se rapprochent l'un de l'autre et puis Leia, Luke et Han Solo, Chewbacca est probablement pas loin, vont se faire écraser. Alors imaginez que vous soyez Leia ou Luke et que vous ayez une balle de ping-pong dans les mains. Par ailleurs, on va imaginer pour l'exercice qu'il n'y a pas trop d'air, il n'y a pas trop de frottement, donc on est presque dans du vide. Et on jette cette balle de ping-pong sur un des deux murs. Qu'est-ce qui va lui arriver à cette balle de ping-pong? Eh bien, elle va rebondir sur un des premiers murs du compacteur d'ordure, et puis elle va gagner de l'énergie, elle va en prendre au mur et rebondir plus vite, puis taper sur le second mur, gagner de nouveau de l'énergie, etc., jusqu'à ce qu'elle gagne une vitesse folle. Alors, la chose qui est belle avec les particules et les murs, qui sont en fait des murs électromagnétiques, c'est que lorsque la particule gagne une vitesse suffisante, tout se passe comme si elle ne voyait plus les murs. Donc, votre balle de ping-pong, là, elle accélère et au bout d'un moment, elle ne voit plus les murs, elle ne rebondit plus et elle peut s'échapper. Ça, c'est le mécanisme de Fermi de premier ordre. Le mécanisme de Fermi de second ordre, c'est un mécanisme où on n'a pas simplement deux murs, mais tout un ensemble de murs qui peuvent bouger dans toutes les directions. On jette notre balle de ping-pong dans cet ensemble de murs. Alors parfois, la balle de ping-pong, elle voit un mur qui s'approche, elle va gagner de l'énergie. Parfois, elle va voir un mur qui s'éloigne, elle va perdre de l'énergie. Et ce qui fait que ça marche, c'est que dans un intervalle de temps donné, eh bien, la balle de ping-pong, elle a un peu plus de chances de voir un mur qui s'approche d'elle qu'un mur qui s'éloigne d'elle. Ce qui fait qu'en moyenne, elle va gagner d'énergie. Et ces deux mécanismes, Fermi 1, Fermi 2, sont encore ceux qui sont invoqués pour expliquer bien plus dans le détail que ce que je viens de vous raconter, hein, les mécanismes d'accélération par onde de choc, par turbulence, dans les environnements astrophysiques qui rayonnent en rayon gamma.
Par rapport justement à ces jets aux niveaux énergétiques extrêmes, Jonathan Biteau, et merci pour ces allégories et cette scène du compacteur de déchets de l'épisode 4 de Star Wars, on peut aussi parler du fait que les blazars sont aussi une des sources possibles des neutrinos de haute énergie qui atteignent la Terre.
Tout à fait. Donc quand on se penche sur l'univers à haute énergie, il faut s'imaginer qu'on arrive pour les rayons gamma, donc c'est-à-dire les photons, les plus énergétiques, dans le domaine du téraélectronvolt. Donc ça, c'est quand on regarde des sources en dehors de notre galaxie. Le téraélectronvolt, c'est à peu près un milliard de fois plus énergétique que les photons de la lumière visible, ceux qu'on observe avec notre œil. Si on va encore à plus haute énergie, au pétaélectronvolt, donc là, on est 1000 fois plus énergétique que les rayons gamma que je viens d'évoquer, eh bien là, on observe des neutrinos. Alors, on observe ces neutrinos maintenant depuis 2013, depuis l'Antarctique avec une expérience qui s'appelle Ice Cube, mais aussi depuis la mer Méditerranée avec une expérience qui s'appelait Antares et qui s'appelle maintenant KM3Net. Il va y avoir une annonce d'ailleurs d'ici peu d'une grande découverte de KM3Net. Et quand on va encore à plus haute énergie, non plus au pétaélectronvolt, mais 1000 fois plus haut que le pétaélectronvolt, à l'exaélectronvolt, eh bien on observe des rayons cosmiques cette fois-ci, c'est-à-dire des protons et des noyaux d'atomes accélérés à des énergies qui sont donc non pas 1000 fois, mais 1 million de fois plus énergétiques que les rayons gamma. Une des questions qu'on se pose aujourd'hui en astronomie multimessager, et donc c'est une question qu'on se pose depuis une dizaine d'années, c'est comment ces messagers sont connectés les uns avec les autres. Et donc, naturellement, on se pose la question de savoir si les blazars, qui sont les sources les plus nombreuses en rayons gamma ogive dans l'univers extragalactique, eh bien, est-ce que ces sources-là pourraient, elles aussi, être responsables de l'émission des neutrinos ou être responsables de l'émission des rayons cosmiques? C'est une question qui n'est pas encore tout à fait tranchée. En neutrinos, on a ce qu'on appelle des éléments de preuve. Nous, scientifiques, en particulier en astrophysique des hautes énergies, nous sommes particulièrement drastiques avant de clamer une découverte, de réclamer une découverte. Donc, à ce stade, ce qu'on a, c'est des associations avec un bon degré de confiance entre 1 à 2 blazars et un neutrino, et puis une association un peu plus ferme entre des neutrinos et un noyau actif de galaxies sans jet. Et donc reste la question, est-ce que ces neutrinos observés depuis l'Antarctique, depuis la Méditerranée, est-ce qu'ils viennent de la matière qui est en train d'être mangée par les trous noirs? Est-ce qu'ils viennent des jets émis par 10% de ces trous noirs? C'est une question encore ouverte, même si on avance énormément et même si la décennie qui va venir nous fournira probablement une réponse à cette question. En tout cas, j'espère.
En attendant de trancher sur ces questions, sont-ils responsables des rayons cosmiques et des neutrinos de haute énergie? Hélène Sol, on dit pourtant que les blazars peuvent être considérés comme des phares cosmiques.
Exactement, c'est bien exprimé parce que comme ils sont extrêmement lointains par rapport à l'observateur, disons, ils nous permettent de sonder tous les milieux traversés, donc tous les milieux intergalactiques que la lumière provenant de ces blazars traverse avant d'arriver jusqu'à nous. Comme ils sont spécialement brillants, c'est eux qu'on va voir comme source pérenne, disons, qu'on va voir le plus loin dans le cosmos. Donc, ils permettent de sonder jusqu'à des époques où l'univers était vraiment très jeune. Et ils vont en plus offrir la possibilité de les utiliser comme point de repère. C'est-à-dire que dans les siècles passés, les navigateurs ils se repéraient par rapport aux étoiles qui représentaient un référentiel fixe pour eux, qui leur permettait de trouver leur direction, disons. Mais avec les instruments de l'astrophysique qui se sont améliorés, les performances ont été de plus en plus optimisées et tout, on s'est rendu compte qu'en fait les étoiles finalement elles avaient tout de même un mouvement non négligeable que nos instruments pouvaient tout à fait détecter. Donc on s'est mis à utiliser des sources plus lointaines, et qu'est-ce qu'on a trouvé comme sources plus lointaines qui donc vont bouger, avoir des mouvements apparents a priori nul au niveau théorique. En fait, en pratique, comme leur forme peut évoluer, ça induit une certaine imprécision dans les points de mesure, mais en fait, ça donne tout de même des points de référence extrêmement solides, et en tout cas les meilleurs qu'on ait à l'heure actuelle. Donc, ces blazars, on a des catalogues de blazars qui constituent ce qu'on appelle l'ICRF, enfin l'International Celestial Reference Frame, donc le repère de référence céleste internationale, par rapport auquel tout ce qui bouge peut être mesuré, donc en particulier la rotation de la Terre, le mouvement des plaques tectoniques, et partant de là, nos GPS en fait. C'est
tous les systèmes de géopositionnement par satellite.
Exactement.
C'est grâce à eux aujourd'hui.
Oui, et la navigation spatiale également.
Voilà, ils sont plus lointains, plus stables et brillants. Ils sont donc parfaits pour définir tout le système de référence céleste. Mais à quoi peuvent donc bien servir encore les quasars en astronomie? Restez avec nous.
Planète, net, 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 net. je me sens revivre. D'en bas, on me guette.
Dans la galaxie de Bruno Leys en direct sur France Culture, car nous parlons des noyaux actifs de galaxies, nous parlons de blazars. En compagnie de nos deux invités du jour, Hélène Sol, directrice de recherche émérite au CNRS, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris-Meudon, rattachée à l'université PSL et à Sorbonne Université, et avec Jonathan Biteau, maître de conférence à l'université Paris-Saclay, chercheur en physique des astroparticules. On vient de voir que les blazars sont des sources très distantes de rayons gamma à des niveaux d'énergie immense, de l'ordre du téraélectronvolt. Actuellement, un grand projet est en cours de fabrication pour étudier les rayonnements gamma au sol, le CTA, pour Cherenkov Télescope Array, le réseau de télescopes Cherenkov. Alors pour le reportage du jour, nous sommes allés voir une de ces caméras, le NectarCam, qui est en phase de test au CEA Paris-Saclay. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors ces caméras sont particulières parce qu'elles ne photographient pas directement le blazar, elles détectent une lumière émise indirectement par ces corps célestes.
Effectivement. Alors si on essaye de retracer le trajet de la lumière depuis le blazar jusqu'à l'une des caméras du projet NectarCam, ça se passe ainsi. Les photons sont émis par le blazar, ils traversent tout un pan de l'univers, puis ils finissent par arriver chez nous. À ce moment-là, ils se fracassent sur la haute atmosphère et ils se transforment en une cascade de particules. Certaines particules de cette cascade vont tellement vite qu'elles vont émettre à nouveau de la lumière, mais une lumière bien particulière cette fois qui nous apparaît un peu bleutée. On appelle cela le rayonnement de Cherenkov. En ce moment, plusieurs caméras sont en phase de test au CEA Paris-Saclay et j'ai pu voir l'une d'entre elles accompagnée de Jean-François Glichenstein, physicien au CEA et responsable scientifique de l'instrument NectarCam.
Donc nous, on l'appelle la chambre noire, c'est une chambre de test pour notre caméra. Et cette caméra, elle a plusieurs composants. Elle a d'abord les détecteurs. Donc ces détecteurs, ce sont des photomultiplicateurs. On ne les voit pas parce qu'ils sont dans des tubes. Il y a d'abord à l'entrée ce qu'on appelle des guides de lumière.
Ça ressemble vachement aux alvéoles d'une ruche d'abeilles, alors sous les yeux. Et où est-ce qu'ils sont ces photodétecteurs? Est-ce qu'ils sont dans les trous des alvéoles justement?
Ce qu'on voit, ça ressemble effectivement à des alvéoles. Ce sont les guides de lumière. Donc ces guides de lumière, ils nous permettent de ne pas perdre de lumière à la phase d'entrée de la caméra.
C'est comme des entonnoirs pour la lumière, est-ce qu'on pourrait le décrire comme ça?
Absolument, c'est tout à fait ça. Donc on voit la phase d'entrée qu'on appelle la photocathode du photomultiplicateur. Donc c'est beaucoup plus petit que le guide de lumière. Ces objets-là, ils sont sensibles à seulement quelques photons. Donc c'est l'intérêt, et puis très très rapide. Donc ils permettent d'avoir des signaux qui font quelques milliardièmes de seconde. La cascade, on essaie d'observer, ne dure que depuis quelques milliardièmes de seconde jusqu'à quelques dizaines de milliardièmes de seconde. Au sol, il y a en fait très peu de photons, donc Cherenkov, qui arrivent. Il y en a typiquement une centaine par mètre carré, donc ils sont réfléchis dans d'énormes réflecteurs.
Okay, c'est-à-dire ils arrivent sur des miroirs et ils rebondissent sur le miroir,
Absolument. Donc nous, nos réflecteurs pour notre télescope, c'est 88 mètres carrés. Après, ils arrivent donc dans le plan focal du télescope qui constitue la caméra.
Comment on sait que ces photons-là viennent d'un rayonnement de Cherenkov et pas juste de n'importe quelle source de lumière qu'on a autour de nous?
Alors justement, la seule façon de le savoir, c'est que ça fait un flash de lumière qui est extrêmement bref. Et donc ça permet de les distinguer de la lumière ambiante. Il n'y a, à ma connaissance, aucun flash de lumière aussi bref.
Pour donner une image, n'importe quelle source de lumière qu'on côtoie tous les jours, elle émet des milliards et des milliards de photons. Là où le rayonnement de Cherenkov, c'est quelques photons, c'est ça?
Voilà, exactement, c'est quelques-uns. Mais c'est quelques-uns, mais ils arrivent dans un temps ultra bref.
La caméra est aussi capable de dire plus ou moins d'où ont été émis les photons qu'elle vient de capter. Mais pour trouver une localisation précise, il faut faire de la triangulation, en combinant les informations obtenues par plusieurs caméras. C'est ce qui permet de remonter à l'événement cosmique à l'origine de la cascade. À La Palma, aux îles Canaries, ce sont 13 caméras de ce type qui fonctionneront en symbiose d'ici un an. François Brun est lui aussi physicien au CEA et travaille sur la NectarCam.
Donc oui, quand on observe le ciel et qu'on voit des cascades, ce qu'on voit, ce sont des traces qui ressemblent un petit peu à des météorites. Et la direction principale de cette image nous permet de pointer, quand on combine les images de plusieurs télescopes, de pointer à la direction initiale du photon gamma qui est arrivé dans la haute atmosphère. Là, après, on va aller discuter avec nos collègues dans d'autres longueurs d'onde, en optique, en rayon X. Donc, on va dire, en photon gamma, on va dire, nous, on a vu une source qui vient d'ici. Il y a plus de photons qui viennent de telle direction du ciel plutôt qu'à côté. Est-ce que vous avez déjà une source qui existe, que vous avez identifiée par ailleurs? On va pouvoir faire des associations de sources.
La signature du blazar, ça serait quoi, par exemple?
Un blazar en rayon gamma, c'est une source qui apparaît comme ponctuelle. Donc ça, c'est pour la morphologie de la source. Et puis après, dans la distribution en énergie des photons gamma qu'on reçoit, peut avoir des signatures particulières.
Jusqu'ici, tout ce que nous avons décrit, c'est l'avant de la caméra. Mais à l'arrière, derrière des portes de camions-frigos, se trouve toute la partie informatique. Car si la caméra est allumée en permanence, elle n'enregistre pas tout ce qu'elle capte. Elle est programmée pour fonctionner comme un piège photographique, pour ne filmer qu'aux instants qui sont intéressants.
Là, à l'arrière de la caméra, on a tout le système d'auto-déclenchement de la caméra. Donc il y a tous les systèmes électriques, l'alimentation des modules, des pixels. Et puis ce système d'auto-déclenchement, quand la caméra détecte un événement potentiellement intéressant, l'information passe dans les câbles qu'on a ici et... Alors, c'est des câbles orange.
Qui sont accrochés à un énorme circuit imprimé vert. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un circuit imprimé par alvéole, d'ailleurs.
Il y a un circuit imprimé pour 7 pixels. Et ils sont connectés entre eux pour faire en sorte que chaque module, on appelle ça un module, chaque module de 7 pixels soit au courant de ce qui se passe dans le module voisin. Comme ça, je peux combiner l'information entre mes 7 pixels et mes pixels voisins pour, s'il y a quelque chose d'intéressant, un flash qui est détecté, l'information puisse être enregistrée.
Les données sont ensuite envoyées par fibre optique vers les ordinateurs de différents laboratoires. Dans le cas de la caméra que nous avons en face de nous, qui est encore en phase de test, toutes les données sont traitées dans une pièce juste à côté de la chambre noire.
Et là, sur le schéma qu'on a sous les yeux, on a un graphique avec toutes les alvéoles qu'on a vues tout à l'heure, et on voit que certaines deviennent bleues, blanches, rouges.
C'est un enregistrement. Alors si on ne met aucune source, on voit quand même des choses, parce que ce sont des rayons cosmiques. On appelle des muons qui traversent traversent l'atmosphère et qui déclenchent la caméra. Donc ça fait des lignes droites, quelquefois des choses un peu plus compliquées. Et c'est en fait un des premiers tests fonctionnels qu'on fait de la caméra. On la met dans cette position, on met la tension dans le noir et on regarde si on voit quelque chose. Si on voit rien, c'est qu'elle marche pas.
Et si on voit des muons, c'est bon signe.
C'est que c'est bon signe, voilà, exactement.
Avec la caméra qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on espère apprendre de supplémentaire sur les blazars?
Aux îles Canaries, il y a déjà donc des gros télescopes qui voient les blazars dans la partie basse énergie, disons un facteur 10 en dessous de notre caméra. Et nous, on étend en énergie leur spectre. Ça permet de mieux comprendre le mécanisme d'émission des blazars. Il y a plein de choses qui sont pas très claires. Est-ce que les blazars n'émettent que des électrons? Est-ce qu'ils émettent aussi des hadrons ou pas? Et ça, c'est quelque chose qui peut être distingué à partir du spectre.
Vous souhaitiez rajouter quelque chose, François?
Oui, pour les blazars, là, on va aussi être capable de répondre à des alertes. Donc s'il y a un satellite qui dit, là, dans telle direction du ciel, il y a quelque chose qui a un sursaut d'activité, on va pouvoir repointer nos télescopes très rapidement pour aller capter ces sursauts d'activité et voir si... Il y a le même sursaut qui est observé en photon gamma ou non, et ça permettra de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ces objets-là.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Jonathan Biteau, les blazars, comme je disais dans mon introduction, on n'en connaît que 3000, mais ce nombre devrait augmenter, notamment avec le CTA et ce NectarCam.
Alors, ce qui va augmenter avec CTA et NectarCam, c'est la précision avec laquelle on est capable de mesurer le flux en rayon gamma de ces blazars. On n'en observera pas forcément plus avec l'observatoire CTA, CTAO, qu'on a observé jusqu'ici avec le satellite Fermi, pour la simple et bonne raison que quand on observe avec un observatoire au sol, souvent on pointe dans le ciel dans des directions privilégiées, alors qu'un satellite comme Fermi, qui observe à plus basse énergie, lui couvre l'ensemble du ciel en tournant sur lui-même. Donc l'objectif de CTAO, c'est vraiment de pointer nos télescopes vers les objets qui nous en apprendront le plus sur l'astrophysique de ces sources et sur ce qui se passe entre ces sources et nous, les observateurs, plutôt que d'essayer de détecter plus de blazards.
Hélène Sol, la France est très impliquée dans le développement d'une nouvelle génération d'instruments pour le domaine gamma. Le secteur a d'ailleurs connu un boom, une accélération depuis les années 2000. Mais pourquoi le rayonnement gamma à haute énergie, c'est quelque chose de particulièrement intéressant à étudier ?
Oui, alors c'est spécialement intéressant parce que ça donne une fenêtre sur les phénomènes les plus énergétiques de l'univers et les réservoirs d'énergie les plus élevés en allant vraiment à la source de cette énergie. Parce qu'une fois que le système commence à rayonner à très très haute énergie, on voit après des énergies qui sont dégradées, on observe à plus basse énergie. Mais il y a un intérêt très, très grand à vraiment pouvoir capter l'énergie la plus extrême qui est à la source de toute une cascade d'énergie secondaire ultérieurement, disons.
Ça peut nous permettre de sonder un peu mieux les régions proches du trou noir central des blazars, par exemple.
Exactement. Par exemple, on se rend compte qu'il y a des variabilités extrêmes, extrêmement rapides dans certains blazars. Qui suggère que la zone d'émission est d'une taille à peu près comparable à la taille de l'horizon du trou noir. Donc on pense qu'on est vraiment dans des régions parfois très très proches du trou noir. Par contre, je voudrais dire que, disons, quand on dit 3000 blazars connus, bon, c'est aux hautes énergies. Disons, on connaît quand même beaucoup plus d'AGN et de blazars ou de candidats blazars.
Oui, c'est dans cette sous-catégorie que sont les blazars.
Voilà, c'est une sous-catégorie, oui.
Très bien. En tout cas, est-ce que les blazars peuvent nous éclairer sur l'enfance de l'univers ? Restez à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Trio.
En direct sur France Culture, avec Jonathan Bito et Hélène Sol, nous parlons de blazars, qui font partie des objets les plus lumineux de l'univers et qui sont la source principale de rayonnement de haute énergie. Parlons de cette actualité. Le blazar J04-10-0139 a été découvert récemment. Il est situé à 12,9 milliards d'années-lumière de nous. On l'a découvert grâce à une combinaison de télescopes terrestres et spatiaux. Il est situé dans une galaxie qui s'est formée 800 millions d'années après le Big Bang. C'est le plus ancien blazar jamais observé. Jonathan Bito, est-ce un objet clé pour étudier l'évolution des galaxies et des trous noirs supermassifs dans l'univers primitif ?
Lui, ses voisins, ses cousins, oui, ce sont des objets clés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà depuis quelques années une population de blazars émerger à haut décalage vers le rouge, c'est-à-dire très loin de nous, dans des âges très faibles de l'univers. Alors, on connaissait déjà l'existence de quasars, avec ou sans jet d'ailleurs, à haut décalage vers le rouge, à une époque où les galaxies sont en train de se former et où elles sont en train d'émettre suffisamment de rayonnement dans l'ultraviolet pour ioniser l'univers. Alors, comme je le disais, cet objet et ses voisins, ses cousins ou ses voisines et ses cousines sont intéressants parce que ce qu'ils nous montrent, c'est que non seulement il y a des trous noirs supermassifs avec une masse de l'ordre du milliard de masses solaires à des âges relativement jeunes pour l'univers, mais en plus que déjà se forment. Et donc une des questions que ça soulève, c'est numéro un, pourquoi est-ce que des trous noirs aussi gros existent à des temps si jeunes? C'est difficile de former un trou noir d'un milliard de masses solaires, ça prend du temps. Et deux, est-ce que l'existence de ces jets, pour certains de ces objets, pourrait être une source d'explication, ou en tout cas une raison d'exister ou de fonctionner pour ces trous noirs qui accèdent de la matière? Donc la question sous-jacente, c'est à quelle vitesse un trou noir est capable de manger de la matière, et est-ce que la présence ou non d'un jet influe cette vitesse à laquelle un trou noir mange.
Hélène Sol, peut-on reconstruire l'histoire de l'univers grâce au blazar?
C'est une question vraiment compliquée. Je pense qu'il y a énormément d'ingrédients qui sont tout de même indispensables pour essayer de reconstruire l'histoire de l'univers. Les blazars peuvent effectivement apporter des éléments, et en particulier je pense que c'est quand même une découverte de savoir qu'il y a des trous noirs aussi massifs qui sont déjà formés avec des blazars développés à cette période de l'époque de réionisation de l'univers, qui est quand même une époque où l'univers était très jeune. C'est à peu près, pour une personne qui vivrait une centaine d'années, ça correspond à avoir 5 ou 6 ans, disons. Hein, donc on observe l'univers vraiment dans son enfance, grâce à cette nouvelle catégorie de blazar. Et le fait qu'on observe un blazar indique aussi qu'il doit y avoir beaucoup d'autres objets de même nature, mais qui ne sont pas dirigés vers nous, dans cette même zone. Donc, en essayant de forcer un petit peu plus les observations, on pourra peut-être aussi espérer les détecter. Et donc, sonder cette zone de l'époque de la réionisation, qui est difficile à sonder, parce que l'univers n'est pas encore parfaitement transparent à cette époque-là.
En effet, depuis une dizaine d'années, on découvre de nombreux trous noirs formés lorsque l'univers était jeune, mais ça semble ne représenter que le sommet de l'iceberg, Jonathan Bitteau. Quels sont les avancer en perspective dans l'étude des blazars?
Dans l'étude des blazars simplement, ou aussi dans l'étude des galaxies jeunes?
Oh, on va rester sur les blazars, surtout qu'on est en toute fin d'émission. Blazars, voilà.
Perspectives nombreuses. Alors, si j'essaye d'aller des temps, des âges très jeunes, de l'enfance, de l'univers jusqu'à maintenant, je dirais qu'il y a une question. S'il y a une question à adresser pour l'âge jeune de l'univers et les blazars, c'est combien sont les blazars à cette époque-là? Est-ce qu'il y a un lien avec les observations de protogalaxies que le James Webb Space Telescope fait? Donc ça, c'est une grande question à adresser, je pense. Ensuite, comment est-ce que ces blazars évoluent jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces blazars, tels qu'on les voit à l'époque où l'univers avait 50 ans, donc disons la moitié de son âge, sont les mêmes que les blazars initiaux et sont les mêmes que les blazars qu'on observe dans notre univers très proche? Et puis, si on arrive à comprendre cette évolution, si on arrive à comprendre comment ces blazars émettent, à quel point est-ce qu'on peut utiliser ces blazars pour sonder ce qu'il se passe entre nous et eux? À quel point peut-on les utiliser pour sonder la transparence, par exemple, de l'univers au rayon gamma et ce qui est présent dans les grands vides cosmiques qui constituent la majeure partie de l'espace dans notre univers?
Voilà, et ces questions ne se limitent pas seulement, comme vous le disiez, au seul blazar, et ça concerne tous les noyaux actifs de galaxies. On attend en effet les futurs résultats du James Webb Space Telescope, qui va permettre de repousser les frontières du possible pour remonter toujours plus loin en distance et donc dans le temps, et puis surtout avec l'observatoire Vera Rubin, qui promet d'apporter de grandes quantités de données dans le domaine optique, avec première lumière qui est prévue le 14 avril, et qui balayera, je crois, la moitié du ciel de manière non biaisé grâce à une cadence régulière. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais je vous invite, pour tout comprendre sur les quasars, à podcaster notre épisode Quasar, lumière et gaz à tous les étages. Merci beaucoup. Tout de suite, on change de sujet complètement. On vous parle de solitude et de la santé mentale des chevaux. C'est la chronique avec science.
Les chevaux sont-ils hébergés dans les meilleures conditions possibles? Pas évident de maintenir des chevaux en captivité. Ce sont de gros animaux qui demandent des installations d'une taille considérable et qui ont des besoins. Alors, si vous avez pensé au mythique Augias et à ses écuries dont le fumier n'a pas été nettoyé en 30 ans, détrompez-vous ici. Nous allons parler d'éthologie de comportement animal. Une très récente publication dans la revue Animal Behavior rapporte que les chevaux souffrent de l'isolement. Et oui, généralement, on les héberge dans des boxes individuelles d'une taille standardisée de 3 mètres sur 3 ou 3 mètres sur 4, principalement pour des besoins pratiques. Plus que des animaux d'agrément, les chevaux sont des bêtes de travail. On a besoin qu'ils soient prêts et disponibles à tout moment. Mais lorsqu'un cheval est laissé au pâturage, eh bien, il faut aller le chercher. Il peut s'être roulé dans la boue ou chamaillé avec ses congénères et s'être blessé, ce qui n'est pas l'idéal quand on doit gérer un club d'équitation. Le problème, c'est que ces conditions de maintenance répondent à des questions pratiques, mais pas aux besoins de l'espèce. Odile Petit est éthologiste, directrice de recherche CNRS dans le laboratoire de psychologie sociale et cognitive à Clermont-Ferrand. Elle a encadré Anna Flamand qui a mené ses recherches.
En fait, les chevaux, tout au long de leur vie durant, que ce soit quand ils sont tout petits ou qu'ils vont être après à l'âge adulte, ils vivent toujours en groupe social. Et donc, les mettre en hébergement individuel, ça veut dire supprimer cette composante sociale. Donc ça, c'est déjà une frustration, ça procure du stress à l'animal. Après, il y a ce problème d'un cheval qui, normalement, à la pâture, peut faire jusqu'à 7 km par jour. Donc, dans un box, 3 mètres sur 3, pour un cheval qui est très, très grand, ben, en fin de compte, c'est très, très limité. Et puis, il y a ce problème de l'alimentation. Et donc, un cheval, quand on va le passer de la pâture à un box, un hébergement individuel, 75% des individus vont déclarer des comportements anormaux quasiment le lendemain, c'est-à-dire faire des allers-retours dans le box, tiquer à l'ours, agripper en fin de compte un morceau de bois qui est par exemple sur la porte et le mordre comme ça, en soufflant, en expirant. En fait, tous ces comportements, c'est un moyen de gérer le stress, c'est-à-dire de s'occuper, de contrer l'ennui. Et donc, ça devient vraiment des comportements très répétitifs qui n'ont aucune fonction à part cette fonction d'évacuer le stress.
Ces comportements anormaux, c'est ce qu'on appelle donc des stéréotypies et ce ne sont pas les seuls comportements qui traduisent un mal-être. On remarque aussi de l'agressivité par exemple. Ce sont des choses qui sont plutôt connues, mais pour pouvoir convaincre la filière équine et apporter des solutions, eh bien, il fallait démontrer le rôle spécifique de l'isolement social dans ces comportements. Alors comment mesurer l'effet de l'isolement sur le bien-être? Eh bien, pour répondre à cette question, Odile Petit et son équipe ont fait une expérimentation. Elles se sont rendues dans une structure équestre pour étudier 20 chevaux qu'elles ont répartis en deux groupes. Les premiers étaient maintenus dans des conditions classiques, en box individuelle et sans contact direct avec leurs congénères. Les chevaux du second groupe étaient hébergés dans les mêmes conditions, à la différence qu'ils bénéficiaient d'une heure par jour de récréation sociale. C'est-à-dire qu'ils étaient placés par deux dans un box de rencontre spécialement construit pour leur permettre de se toucher et d'interagir en restant chacun de son côté. Les chercheuses ont ensuite étudié l'effet de ces interactions sociales sur le bien-être des animaux. Elles ont regardé leur comportement au box, avec les humains lors du pansage, c'est l'entretien des chevaux, et au cours de tests comportementaux.
Nous, on va se baser sur des indicateurs qui sont l'agressivité envers l'humain, l'apathie, c'est-à-dire vraiment cette façon qu'a l'animal de tourner le dos à l'extérieur, d'être face à un mur avec l'encolure baissée, une hypervigilance, c'est-à-dire une hyperréactivité à l'environnement, et puis des comportements stéréotypés qui sont ces comportements répétitifs qui n'ont pas de fonction. Et donc ces comportements, ces attitudes, en fin de compte, on les a beaucoup moins observés chez les chevaux de la condition sociale que chez les chevaux de la condition isolée. Pendant le box de rencontre, il peut y avoir des interactions positives, des interactions négatives. Chez les jeunes chevaux, on l'a vu. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est juste qu'il y ait des interactions. Mais le plus souvent, les chevaux, très vite, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 10 minutes, ils se mettent à côté, ils apportent leur foin proche de la paroi et ils mangent l'un à côté de l'autre. Ce qu'ils font, en fin de compte, au pré. Donc, c'est vraiment impressionnant de montrer que c'est pas forcément l'interaction sociale, mais c'est aussi la proximité sociale avec le congénère.
4 mois d'interaction sociale suffisent pour améliorer chez un animal la perception de son environnement et donc son état émotionnel. Au-delà du bien-être animal, la volonté des scientifiques ici est de montrer que de meilleures conditions de maintenance des chevaux représentent un véritable bénéfice pour leurs possesseurs. Ils sont plus détendus lors des interactions avec les humains et plus coopératifs au travail. Alors, pas la peine de détourner un fleuve à la manière d'Hercule pour prendre soin de vos chevaux. La première étape serait déjà de les laisser se rencontrer.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Antoine Beauchamp, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.